Décryptualité, semaine 50. Salut Manu.
Salut Luc.
Bon, ce sera le dernier de l'année.
Oui, on va se reposer un peu, on a le droit à des vacances.
Oui, on y a droit, je sais pas. En tout cas, on va en prendre. Sommaire.
On a 6 jolis articles.
Oui, le sommaire est pas mal, assez intéressant. Donc, lemonde.fr, la CNIL inflige de lourdes amendes à Google et Amazon pour non-respect de la législation sur les cookies. Un article de la rédaction.
Alors, enfin, des dizaines de millions d'euros, la CNIL était souvent bloquée sur les montants. Là, ça commence à titiller.
Bah, notamment le RGPD permet de mettre des amendes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées qu'avant.
Donc là, il s'agit de cookies, c'est-à-dire que Google, Facebook continuent à tracer leurs utilisateurs, alors qu'ils devraient au minimum permettre qu'on refuse la dépose de cookies traceurs. Donc, bah, là,
c'est ce bandeau qui fatigue un peu les gens, mais qui permet de dire « je veux celui-là, mais pas celui-là ». Et en théorie, ça doit être facile de pouvoir les refuser. Normalement, il y a, par exemple, il y avoir un bouton « tout refuser » et il y a plein de sites web qui ne le font pas. Contexte, régulation des plateformes, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas. Un article de Cécile Frang et Gwenaël Pépin.
On en a parlé la semaine dernière, c'était en lien avec notre liste au Père Noël.
Alors, il nous a écouté ?
Non, pas vraiment, enfin, je suis étonné.
Quel salaud.
Alors, c'est le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Donc, c'est deux trucs sur les services et les marchés, mais digitaux. Bah oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui ont l'air de poindre sur les obligations des grosses plateformes, de contrôler, de s'associer avec les institutions, de payer différentes étapes. Il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être listées. On va voir exactement ce qui va aboutir sur les textes une fois qu'ils seront proposés au vote.
Le monde informatique, l'Open Source Security Foundation, une création tant attendue, un article de Matt Hazay.
Alors, ce n'est pas une fondation si récente que ça, elle existe depuis déjà quelques temps, mais c'est une fondation dont il faut qu'on parle plus, parce que la sécurité, ça reste un sujet assez compliqué. Et c'est un petit peu ce qui a monté dans l'article. Il y a pas mal de développeurs qui ne s'y intéressent pas parce que c'est chiant de faire de la sécurité et pas facile. Donc, la fondation se propose d'y travailler.
Voilà. Et il faut bien se dire qu'à mesure que le monde devient de plus en plus instable, le domaine de l'informatique sera un champ de bataille. Et c'est là que la sécurité va changer un peu les choses. L'AREM, le grand écart entre Gaia-X et Health Data Hub, un article de Jacques-André Finesse-Schumberger.
C'est intéressant parce qu'on parle de vie privée, mais aussi de informatique en nuage, et il y a une problématique, c'est que les données de santé des Français sont déposées sur les serveurs de Microsoft, alors qu'on se propose de faire un système de nuage européen,
donc
un peu incohérent tout ça. Voilà, Gaia-X, effectivement.
Mais donc on avait dit qu'il fallait quand même se méfier, parce que Gaia-X était peut-être...
Oui, voilà. Ça reste un truc un peu chelou, donc voilà, mais ça n'empêche, il faut arrêter de donner nos informations de santé des citoyens français, une entreprise américaine.
ZDNet France, Vitam, logiciel libre d'archivage électronique porté par 3 ministères. Chacun peut participer à l'amélioration, un article de Thierry Noisette.
Donc de l'archivage électronique dans une optique de gros volume et de garder des documents à long terme. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais les documents informatiques deviennent illisibles avec le temps parce que faut les maintenir, ces formats, c'est pas facile. Il faut s'assurer qu'on ait encore les logiciels pour les lire. Donc là, c'est une grosse initiative, c'est un truc assez conséquent. Et ça touche pas que ces 3 ministères qui sont listés, mais ça touche même d'autres pays, d'autres administrations internationales qui s'intéressent à l'archivage à long terme de documents. Donc c'est plutôt pas mal. Jetez un œil, vous avez sûrement des données que vous voulez garder dans votre entreprise, votre association, votre club, votre mairie. Je pense que ça peut être une piste, même si ça paraît pas simple quand même.
Le monde informatique, pourquoi l'open source a besoin de plus de cloud ? Un article de Matt Hazay.
Donc un article plutôt intéressant.
Et qui sera notre sujet du jour, en tout cas on va démarrer de ça.
Voilà, donc ça cite notamment Stephen O'Grady, et ça parle un petit peu du passé, de Microsoft, et de son attitude vis-à-vis du logiciel privateur. À une époque, Microsoft considérait qu'ils devaient être les seuls à faire du profit sur leur logiciel, c'était la logique du propriétaire à tout craint. Cette logique-là a évolué.
Et oui, alors pendant longtemps, c'est à moi, donc je dois en tirer un max. J'essaie de le mettre partout, j'essaie que tout le monde paye. Et ça, c'est un modèle qui est très répandu aujourd'hui encore, bien sûr, qu'on retrouve en dehors de l'informatique, dans le domaine culturel notamment. Mais on se souvient aussi que Bill Gates, par exemple, par rapport au logiciel libre, critiquait ce qu'il appelait les hobbyistes, donc les gens qui faisaient ça pour le fun, etc. Et en disant, lui, il dit, moi, je suis là pour faire du pognon. Je ne suis pas une espèce de rigolo qui fait ça pour m'amuser. Et il y avait une sorte de mépris pour les gens qui faisaient ça par passion.
Donc, il faut croire que ça a changé. Ça, c'était Bill Gates dans les années 70-80.
Et 90.
Oui, après, ils n'ont pas changé 2000. Leur fusil d'épaule comme ça, effectivement. Mais là, non, bizarrement, Bill Gates et compagnie, parce que ce ne sont pas les seuls, mais Microsoft et compagnie, on va dire plutôt. Et maintenant, ils font beaucoup, beaucoup de logiciels libres. Beaucoup des briques qui sont utilisées dans les outils de Microsoft sont libres.
Oui, alors, il y a quand même plein de gens qui restent encore sur ce modèle propriétaire de « voilà, j'ai mis les sous, c'est à moi, ça m'appartient ».
Tu penses à Oracle, hein ?
Oui, par exemple, même, je veux dire, dans les tas de boîtes, hein, au quotidien, dans les organisations pour lesquelles on travaille, même dans le monde de l'administration, c'est en train de changer un petit peu, et notamment avec l'hygiène. Donc pendant très longtemps, on a demandé à l'hygiène de vendre de la carte, la donnée, elle est à nous, et donc l'hygiène doit faire de l'argent avec. Et là, on a appris ça très récemment. Ils viennent de passer leurs données sous licence libre, donc ce qui pose plein de questions au niveau de l'hygiène, mais qui fait qu'il y a quand même un renversement. Mais en tout cas, on a duré pendant des décennies avec cette idée de la propriété, et aujourd'hui, ça reste encore très, très ancré dans les esprits. Moi, je connaissais quelqu'un assez haut placé dans des boîtes d'informatique.
Tu donnes des noms ?
Non, pas du tout. Pour lui, c'était le modèle, quoi.
Microsoft.
C'était, voilà, c'était la réussite ultime. Et je lui avais dit, mais Microsoft fait 80% de marge sur la bureautique, on se fait tondre. Et il dit, mais moi aussi, j'aimerais bien faire 80% de marge. Et donc, c'était le modèle à atteindre. Et avec cette idée de, on fait du propriétaire, tout ce qu'on développe, c'est à nous. Et on va surtout rien partager. Parce que, voilà, on l'a payé et il faut qu'on fasse du profit avec.
Ça ne le dérangeait pas de payer les licences et de savoir que 80% allaient en bénéfice ?
Et bah, le truc, c'est que des licences, il n'en payait pas tant que ça. Et tout défenseur qu'il était du modèle propriétaire, si lui pouvait éviter de payer les licences, il le faisait. Ce qui, d'ailleurs, lui est retombé dessus à l'occasion. C'est ce truc un peu difficile à comprendre, de dire comment tu peux dire « Moi, je veux vendre mes logiciels propriétaires en mettant de la propriété partout. Par contre... si je peux ne pas payer, je vais pas me priver, quoi. »
On dirait que c'est « je veux bien arnaquer les autres, mais il est hors de question que moi-même je me fasse arnaquer. Je veux bien être du côté des gagnants, mais attention, je veux pas me faire avoir un jour. »
Voilà, donc c'est ça. Et puis c'est ce côté un peu de cette vision du monde extrêmement limitée de « je regarde mon intérêt là maintenant tout de suite, je vais pas voir dans la durée et j'essaye d'en tirer un max de bénéfices, j'admire l'effort et j'essaye de niquer les faibles, quoi. » En gros, c'est un peu cette idée-là. Et cette idée, elle est quand même super, super répandue, quoi.
Alors, c'est pas mal décrit dans l'article, c'est un peu ce truc de la tarte. Je peux avoir ma tarte à moi dont je vais profiter et je serai le seul à en profiter parce que c'est la mienne. Mmh. Ou au contraire, je peux la partager avec plein d'autres, mais travailler à la faire grossir. Et travailler à faire grossir une tarte, bah, ça peut être intéressant. Et c'est ce que font maintenant les entreprises, elles travaillent ensemble.
Oui, alors c'est ce qu'a fait le logiciel libre depuis les années 80, je veux dire, il faut bien rappeler que quand le logiciel libre était dans l'informatique, en tout cas en pointe là-dessus, et les GAFAM, qui sont extrêmement néfastes, hein, qui propriétarisent les données des gens, ils sont restent dans un modèle propriétaire, n'empêche qu'ils ont bien compris, et ils ont compris très tôt, que pour développer leur business d'enfermement, ils avaient tout intérêt à utiliser du logiciel libre, et c'est une chose qu'on a dit ici de multiples fois que j'aime bien rappeler, c'est que tous les GAFAM, ou la quasi-totalité des GAFAM, n'existeraient pas sans logiciel libre. Google n'aurait jamais pu se monter s'il a fallu qu'il paye une licence pour chaque base de données et pour chaque serveur qu'il déploie, et en plus ça, il n'aurait même pas eu le droit de bidouiller les trucs, puisqu'il n'a pas accès au code source. Et voilà, toutes ces grosses sociétés qui, indépendamment de leur côté néfaste, sont quand même des trucs énormes et super bien foutus, enfin, je veux dire, par rapport à leur objectif pourri, mais on peut pas nier le fait qu'ils aient quand même du talent. Tous ces gens-là existent parce qu'il y a du logiciel libre.
Moi, j'ai l'impression que tu parles aussi d'une infrastructure comme Internet. Internet est là, tout le monde en profite, tout le monde y contribue. Le logiciel libre est là, tout le monde en profite, tout le monde y contribue. Tout ça, c'est nécessaire au fonctionnement.
Oui, oui,
mais... On va s'en passer vraiment aujourd'hui.
Oui, oui. Après, les GAFAM, certains seraient assez partants pour faire un Internet privé, dès lors que ceux qui le contrôlent, ils sont pas trop regardants, hein. En revanche, ils ont cette capacité à avoir une vision stratégique, y compris une vision long terme. Si on prend une boîte comme Amazon, par exemple, bah Amazon n'a pas fait de profit pendant des années et des années et des années pour consolider son marché, consolider son monopole, et en travaillant sur le long terme avec une vraie vision.
Ils ont réussi à voler plein de marchés, oui, grâce à ça, à des concurrents, voilà, qui aujourd'hui sont obligés parfois de passer par eux.
Tout à fait, oui. Et donc une vision d'enfoiré, hein, encore une fois, mais... Il faut bien admettre que ces enfoirés ont du talent, quoi.
Alors, Microsoft était le parangon de ces systèmes de « tout est à nous ». Alors, effectivement, à une certaine époque, ils utilisaient peu ou quasiment pas de logiciels libres. Alors, officiellement, parce que dans les faits, on sait qu'ils ont volé, ou en tout cas qu'ils ont incorporé, sans le dire, du logiciel libre. Il y a eu des traces et des signatures de cela. Maintenant, bah, ils ont beaucoup bougé, mais bah, Facebook fait beaucoup de logiciels libres, contribue à pas mal de briques importantes. Google aussi, ouais, ils sont, ouais, connus pour ça.
Microsoft, hein, ils se sont plantés dans les grandes largeurs sur la téléphonie mobile en partant en retard, d'une part, avec manque de vision, en essayant d'utiliser uniquement leur code propriétaire à eux, alors que Google avait utilisé le noyau Linux.
Ils sont largement plantés aussi sur Internet.
Voilà, en essayant encore une fois de tout verrouiller, et de fait, ça a été très néfaste à l'époque. Il y a 15 jours, on parlait de la cartographie, et on disait qu'il bah, y avait plein de gens qui arrivaient là-dedans, que le premier contributeur d'OpenStreetMap était Apple en 2019, je crois, en 2020, je ne sais plus.
Et puis, bah, rappelons que Microsoft et Bing, bah, ils utilisent beaucoup la cartographie d'OpenStreetMap, ça leur,
oui,
permet d'avoir une base de travail importante.
Et ils financent le projet.
Oui, c'est un des premiers contributeurs de Potent Map. Hein.
Oui, tout à fait. Et après, il y a d'autres boîtes bon, qui sont plus sur la Carto ou un truc comme Grab qui est dans certains pays. On a pas ça en France. On peut parler également de Blender, parce que j'étais tombé sur un truc là-dessus. Donc là, c'est Facebook qui est rentré. Alors, ils donnent 10 000 euros par mois, ce qui, à leur échelle, n'est pas grand-chose.
Oui, mais ils sont rentrés dans, du bien pour un développeur,
dans, les, dans les financeurs de Blender, parce qu'ils ont des applications de réalité augmentée, puis que ça les intéresse d'avoir un bon logiciel de 3D. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés voir Blender, ils ne sont pas allés voir un des multiples éditeurs propriétaires de solutions de 3D. Ils sont venus mettre des sous. Et Blender est financé par Nvidia, AMD, donc Facebook, Unity qui est un moteur de jeu vidéo, et Epic, un truc de jeu vidéo aussi.
Et je vois sur la page, le petit truc, le carré avec 4 carrés à l'intérieur.
Et il y a Microsoft également,
oui, dans les,
voilà, qui finance ça. Ubisoft, hein, c'est la partie qui fait les animations. Alors, ils n'ont pas un budget démentiel, hein, c'est 137 000 euros par mois, Fondation Blender, mais ça commence déjà à faire pas mal de choses, et on voit que ces grosses boîtes, eh ben, elles sont là, elles ne donnent pas nécessairement des fortunes, mais en tout cas, elles se disent, on a tout intérêt à avoir ces outils qui se développent. La Fondation Linux, alors là, on est sur un truc différent, mais les Platinum Members, hein, parce que c'est important de savoir qui a la plus grosse, AT&T, qui est une grosse boîte de télécom américaine, Ericsson, des téléphones, Facebook, encore une fois, Fujitsu, Google, Hitachi, Huawei, Red Hat, donc et IBM, Intel, Microsoft encore, Oracle, NEC, en alors, gros, tout le monde est dedans, quoi.
Ce qui est le plus étonnant, c'est Oracle, hein, parce qu'ils sont connus pour ne pas beaucoup contribuer oui. au logiciel libre, même en interne, ils n'encouragent pas, ou on pourrait dire, ils découragent leurs développeurs d'aller faire à côté du logiciel libre, donc ils sont vraiment pas de bons citoyens, mais le noyau, on sait qu'ils l'utilisent sur certains serveurs qu'ils vendent, et Oracle, bah, ils ont racheté pas mal de choses, ils ont beaucoup grossi, donc ils utilisent du Linux dans leur noyau, donc bah, ils contribuent, c'est une manière de se l'accaparer, c'est-à-dire de développer des compétences, de faire évoluer la tarte, hein, et d'avoir une plus grosse tarte oui. ensemble, c'est plutôt sympa.
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes ces énormes boîtes, hein, la Fondation Linux, c'est un festival, hein, faut aller voir les membres qui la financent, donc ce sont des entreprises qui sont dans le modèle propriétaire, même si c'est pas dans le code, ça va être sur l'enfermement des utilisateurs, hein, pour les GAFAM. Après, il y a des boîtes plus conventionnelles. Ce sont des boîtes qui sont sur cette question de la propriété, mais qui, quand elles doivent mettre en place des outils informatiques ou des infrastructures informatiques, qu'est-ce qu'elles choisissent? Elles choisissent le libre.
Rappelons, hein, ce sont des boîtes qui souvent sont de grandes concurrentes entre elles,
oui.
sont acharnées sur leurs marchés respectifs, avant de se faire des coups de pute. Hein. Il y en a qui ont été au tribunal les unes contre les autres. Google, Oracle, il y a encore des trucs aux tribunaux. Bah, Google, Microsoft, on sait qu'il y a eu pas mal d'histoires. Mais bah là, non, ils contribuent ensemble.
Voilà, et donc ce que je trouve assez fabuleux, c'est que finalement, le monde privateur, qui, pour en tout cas, c'est des GAFAM qui est là pour enfermer les utilisateurs, capturer leurs données et en tirer un maximum, ne valide pas le modèle propriétaire. Et au final, bah, quand ils ont besoin de faire quelque chose en informatique, ils choisissent, dans leur cas, de l'open source, hein, parce que logiciel libre, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans leur vision des choses, le modèle propriétaire, c'est le modèle qui est valable pour celui qui est en haut de la pyramide. Et pour ceux qui sont en dessous, pour les fournisseurs, ben, ils préfèrent du libre au final.
Allez, tu nous ressors la phrase que tu aimes bien.
Oui, je l'ai utilisée à l'époque où on faisait encore des conférences, quand on avait le droit de sortir de chez soi. C'est le logiciel libre, c'est le logiciel qui est trop bien pour vous, puisque ben, effectivement, les particuliers, on va les tenir éloignés de tout ça, ou alors on va leur fournir dans des systèmes qui vont être clos et où leurs libertés ne sont pas respectées, hein, comme par exemple Android. Ça pose la question de notre capacité à nous organiser.
Bon, bah, c'est une évolution qui est intéressante, même si pour les individus, ça reste énervant.
Voilà, en tout cas, c'est un truc à garder en tête la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Oui, mais moi, je préfère les trucs un peu professionnels » ou « blablabla, blablabla ». En fait, c'est les losers qui choisissent le système propriétaire.
Bah, sur une bonne conclusion comme ça, je te dis à l'année prochaine.
À l'année prochaine, oui. Salut.